En effet, dans cette affaire-là, les Américains, qui ont été les premiers avec Trump, évidemment, à porter un coup à ces négociations de Vienne, comme vous savez, laissent, disons, je ne dis pas pourrir la situation, mais préfèrent agir, disons, indirectement, plutôt qu'apparaître comme des personnes, comme des forces, disons, hostiles à l'Iran. Je crois que ce qui est un peu dommageable aujourd'hui, regrettable, c'est par exemple l'attitude de M. Grassi, par exemple. Ce n'est pas une critique que je me permets d'adresser, mais c'est une constatation de comportement. Parce que on accepte d'entamer des pourparlers avec l'Iran en même temps que il y a une suspicion qui semble être finalement une forme de relation continue, et qui est évidemment assez limitée du point de vue, je dirais, politiquement et même intellectuellement. C'est ça qui me semble dangereux, parce que on endort d'une part l'opinion internationale en disant, voyez, il y a quand même des pas qui ont été faits, l'Iran a accepté. Par exemple, que l'on puisse enregistrer des observations sur le développement de l'énergie atomique. Bon, mais quand même, nous voyons que nous constatons que les questions de fond ne sont pas posées. La première question de fond, elle est juridique. Est-ce que oui ou non, les accords de Vienne seront appliqués? Bien, ils ont été signés, il faut les appliquer. Bon, et ils ne sont pas appliqués. Il y a une amorce, disons, mais c'est surtout la suspicion de l'Iran. C'est ça, de le représenter comme quelqu'un, un État, comme une personnalité juridique, comme sont tous les États, mais à laquelle on ne doit, à la différence des autres États, jamais faire entièrement confiance. Ceci est une manière de faire pénétrer dans la conscience internationale, si je puis me permettre ce mot, justement, une sorte d'hostilité, non pas ouverte, mais latente et permanente. Et ceci, bien sûr, est un grave danger auquel je suis sûr que l'Iran saura répondre, mais quand même, il faut utiliser sa raison. Regardez, nous-mêmes, nous émettons par l'intermédiaire du président de la République, de M. Le Drian, qui a ses qualités par ailleurs, mais des critiques envers l'Iran qu'on devrait d'abord s'adresser envers nous-mêmes. On reproche à l'Iran de vouloir se doter d'un armement atomique. Bien, soyons clairs, nous avons nous-mêmes une bombe atomique qu'on appelle une arme de dissuasion. Bien, écoutez, je ne vois pas en quoi nous avons le droit, nous, parce que nous appartenons soi-disant au camp des vainqueurs de 1945, de posséder une arme quelconque. Une arme de cet ordre, que le Japon, par exemple, ne peut pas l'avoir. L'Allemagne ne peut pas l'avoir. Quand les Israéliens viennent armer leur sous-marin de classe Dauphin, vous savez, qu'on appelle classe Delphine, ils ne veulent pas que les Allemands, bien sûr, les arment atomiquement. Ce sont leurs ingénieurs qui, eux, ont le droit de toucher à cette arme sacrée. Bien, écoutez, je crois que là, il y a quand même une exagération. C'est une opération psychologique. Si on veut prendre les faits du point de vue physique, l'Iran, par exemple, procède à un enrichissement, on dit maintenant, de 60%. Vous savez, pour arriver à l'armement atomique, qui d'ailleurs a été, je le répète, a été interdit sur le plan, disons, théorique, dogmatique, si je puis dire, religieux dogmatique, avec raison du reste. Il faut atteindre 90%. Donc ça n'a pas de sens. Mais j'insiste simplement sur cette continuité, cette tension, voyez-vous, qui n'est pas sérieuse. Je ne vois pas en quoi le Pakistan reste intact de toutes les critiques, lui qui a la bombe atomique depuis des années. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, tout ceci, chacun le sait, mais personne ne le dit ouvertement. Et c'est donc à une grave épreuve, à une grande épreuve, disons, que l'Iran est soumis. Il faut justement, je Je pense que le nouveau ministre des Affaires étrangères saura par son caractère, que je me permets, de, vu mon âge, de voir un peu à travers les photos. Je crois, je le vois comme un homme énergique. Je pense qu'il saura, disons, triompher de cette guerre des nerfs. Voyez, c'est une guerre qui est en même temps absurde, mais qui est dangereuse. C'est une guerre psychologique. Il faut donc que l'Iran se montre courageux. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'osent, qui n'ont pas la capacité de parler ouvertement, mais qui soutiennent l'Iran de ce point de vue. De ce point de vue, car vraiment, il s'agit là de quelque chose qui ne tient pas. C'est un procès d'intention. Évidemment, si on compare avec ce que fait l'entité sioniste, vous savez, eh bien, personne n'ose rappeler que chez elle, le fameux ingénieur Mordecai Vanunu, qui était, vous savez, marocain, juif marocain, qui maintenant est converti, je crois, au christianisme. Il a changé de nom, mais qui a été emprisonné pendant 18 ans comme ingénieur à Dimona, vous savez, et qui avait transmis aux journaux anglais, justement, les informations que, que le journal anglais, je crois que c'est le Sunday Times, a vérifié à l'époque en disant qu'en effet, l'entité sioniste possédait des armes nucléaires. Alors voyez-vous, tant qu'on ne parlera pas franchement, tant qu'on ne dira pas les... Au tribunal, par exemple, on vous demande de dire non pas seulement la vérité, madame, mais toute la vérité. Tant qu'on ne dira pas toute la vérité sur la situation, alors là, nous serons dans une sorte de pénombre et qui n'est pas favorable, à mon avis, à des relations saines. Mais je crois que le dernier mot est toujours au courage politique et au courage moral. J'admire, je dois dire, l'Iran de sa patience et de sa constance. Bien sûr, c'est une grande civilisation, mais évidemment, je dois dire que pour nous, c'est un modèle.